SBS Radio.
Les grands titres de ce dimanche, les tensions persistent au sein de la coalition libérale concernant le Premier ministre Malcolm Turnbull et de son plan énergétique. Le gouvernement fédéral promet 1,8 milliard de dollars pour aider les fermiers affectés par la sécheresse. Les hommages à Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, décédé hier. En Australie d'abord, la crise de leadership au sein de la coalition libérale au pouvoir et le Parti national voudrait voir Malcolm Turnbull continuer comme Premier ministre. Un dîner aura lieu ce soir à la résidence du Premier ministre à Canberra où sont invités les ministres de son cabinet. Malcolm Turnbull présentera les changements à sa politique d'énergie et à sa politique fiscale pour satisfaire les critiques au sein du Parti libéral. La sénatrice du Parti national, Bridget McKenzie, est chef adjointe de ce parti espère que Malcolm Turnbull continuera ses fonctions de Premier ministre.
I think Malcolm Turnbull is our Prime Minister and I would like to see him stay as our Prime Minister and that is actually a decision for the Liberal Party and I haven't heard anything personally that would suggest that that's not going to be, continue to be the case.
Voilà la chef adjointe du Parti national. Et si Malcolm Turnbull est remplacé comme Premier ministre, le choix serait en toute probabilité Peter Dutton et non pas un retour vers Tony Abbott, l'ancien Premier ministre libéral. Et sous la pression de son plan énergétique, Malcolm Turnbull promet de pointer du doigt les compagnies d'électricité qui ne parviennent pas à offrir des prix moins élevés. Le Premier ministre a déclaré que les prix baisseraient grâce à sa politique énergétique signée que le gouvernement fixerait, je cite, une attente des prix confirmant le maximum que quiconque devrait payer. Et dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Malcolm Turnbull indique que les sociétés de production d'énergie qui ne passent pas les économies aux consommateurs seront référées au Competition Watchdog et confrontées aux sanctions les plus sévères si elles ne renversent pas la tendance. Malcolm Turnbull.
We will not hesitate to use a big stick as we did with gas to make sure the big companies do the right thing by you, their customers.
Le Premier ministre Malcolm Turnbull. Le gouvernement fédéral va annoncer un financement de 1,8 milliard de dollars pour aider les fermiers à lutter contre la pire sécheresse depuis plus de 50 ans. Quelques 60 régions affectées par la sécheresse dans l'ouest du Queensland et en Nouvelle-Galles du Sud recevront 1 million de dollars chacune. Que ce soit pour le transport de l'eau potable ou pour la construction de nouvelles installations communautaires. Le Premier ministre Malcolm Turnbull sera à Forbes ce dimanche pour annoncer également que le général à la retraite Stephen Day sera le coordinateur national pour gérer le problème de la sécheresse. Le chef des Verts en Australie, Richard Di Natale, concède que son parti doit mieux faire en réponse aux allégations d'abus sexuels. Plusieurs femmes auraient déclaré ne pas avoir été soutenues après avoir accusé de mauvaise conduite des membres des Verts. Le sénateur Di Natale a déclaré sur l'ABC que les Verts ont pris des mesures pour régler les problèmes dès que les allégations ont été révélées.
Le parti a undertook a thorough review nationally. We consulted with experts in this field, we consulted with women's organisations, we consulted right through the party. We've implemented compulsory and independent training of all staff, of office bearers, of members of parliament. We've got a range of policies and procedures where lines of accountability are very, very clear. We take it really seriously, Barry, and we're doing everything we can to ensure that women who come forward feel supported when they do.
Le sénateur Di Natale sur le programme Insiders de l'ABC. Les pompiers de Nouvelle-Galles du Sud tentent de profiter des meilleures conditions météo pour maîtriser un feu de brousse hors de contrôle dans la région de la Hunter Valley avant que les vents ne reprennent d'intensité. Des habitants des environs de Salt Ash, de Tanil Bay, de Malabula et de Lemon Tree Passage ont reçu un avertissement d'urgence hier samedi soir alors que l'incendie s'est propagé après avoir brûlé plus de 1300 hectares. Le service d'incendie de la Nouvelle-Galles du Sud en région rurale a déclaré que les pompiers poursuivaient leurs opérations dans le but de contenir cet incendie avant les vents les plus violents. On passe à l'actualité internationale avec Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, qui est décédé hier à l'âge de 80 ans. Écoutez l'hommage d'Audrey Azoulay, ancienne ministre française de la Culture. Elle est directrice générale de l'UNESCO ces jours-ci et elle est sur Radio France Internationale.
Le multilatéralisme est remis en question de façon assez forte en ce moment et nous avons des difficultés dans beaucoup d'organisations internationales et lui savait à quel point on ne pouvait pas s'en passer. Bien sûr, le multilatéralisme connaît des difficultés, bien sûr, il doit parfois se réformer. Il même était très engagé d'ailleurs dans la réforme des Nations Unies, dans la réforme à la fois de son organisation, mais aussi de sa gouvernance. Il plaidait pour un certain nombre de réformes, parfois d'ailleurs sans succès auprès des États membres. Donc bien sûr, une organisation qui doit être perfectionnée, mais pas d'alternative, pas de solution qui ne soit pas collective aux grands défis de notre temps. Et c'est ça le message qu'il a toujours porté, celui de la prévention par le dialogue, celui de la défense des droits de l'homme, celui de la lutte contre la pauvreté. Quand nous avons échangé, il a beaucoup insisté aussi sur l'importance de l'éducation comme justement meilleur moyen de prévention des crises, qu'il s'agisse du radicalisme, qu'il s'agisse bien évidemment des conflits armés, qu'il s'agisse de la pauvreté.
Voilà l'ancienne ministre française de la Culture, Audrey Azoulay. Clémentine Pavlovski pour RFI revient sur le parcours de Kofi Annan.
Sa carrière, Kofi Annan la débute au sein de l'OMS, l'organe spécialisé des Nations Unies dans la santé publique. Il intègre ensuite différentes agences de l'ONU avant d'être nommé secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix dans les années 90, une époque marquée par le génocide de 1994 au Rwanda, probablement l'épisode le plus sombre de sa carrière. Quelques années plus tard, le diplomate dira ses regrets. La communauté internationale n'a pas été à la hauteur au Rwanda et cela devra toujours être pour nous une source de chagrin. En 1997, Kofi Annan est nommé secrétaire général de l'ONU. Il restera 10 ans à la tête de l'organisation, deux mandats qui lui vaudront un prix Nobel de la paix et plusieurs succès diplomatiques sur le continent. Exemple, c'est lui qui supervise en 2006 un accord entre le Nigeria et le Cameroun sur la péninsule pétrolière de Bakassi, au cœur d'un long différend entre les deux pays. Mais son action sur le continent s'étend bien au-delà de son mandat de secrétaire général. En 2008, l'Union africaine fait appel à ses talents de diplomate pour régler la crise électorale au Kenya. Kofi Annan parvient à arracher un accord aux protagonistes et le calme revient progressivement dans le pays. Ce parcours fait la fierté de son pays d'origine, le Ghana, où une semaine de deuil national a été décrétée à partir de lundi.
En Italie, les funérailles nationales des victimes de l'effondrement du viaduc à Gênes, boycottées par la moitié des familles en colère contre les politiciens. Le dernier bilan, 40 morts. Écoutez le témoignage de Chiara lors d'une messe catholique pour les victimes.
C'est comme si sur ce pont-là, on était nous aussi parce que c'est un pont qui tout le monde qui habite à Gênes a parcouru 10 000 fois dans la vie. Et donc c'est vraiment une tragédie qui touche les cœurs de tout le monde ici à Gênes, mais aussi dans l'Italie, je pense, parce que c'est vraiment représentatif de notre société italienne actuelle, parce que c'est une tragédie qui aurait pu être évitée. Mais on a l'impression comme si l'État ne nous protège pas. Dans ces situations, c'est clair, on s'occupe de faire quelque chose avant. La ville de Gênes est vraiment une ville de personnes qui s'aident l'un avec l'autre. On a comme le sentiment d'être une grande famille, mais c'est triste parce qu'on arrive dans les télévisions seulement pour les tragédies, seulement quand quelqu'un meurt. J'ai un peu peur que dans quelques jours, tout le monde va oublier. Et pour nous, gens de Gênes, on va se rappeler pour toute notre vie.
En Inde, le Kerala, frappé par des inondations, quelques 6000 personnes piégées par la montée des eaux. Il y a au moins 324 morts pour l'instant. Antoine Guinard, RFI.
Les opérations de secours se poursuivent tant bien que mal au Kerala, alors que des pluies diluviennes ne laissent aucun répit à la population locale. À travers l'État, des milliers d'habitants se sont réfugiés dans les arbres, sur des embarcations de fortune ou sur le toit de leur maison en attendant les secours. Des villes et des villages entiers ont été engloutis, comme une grande partie du réseau routier et ferroviaire de la région. On estime que plus de 200 000 personnes sont actuellement sans abri et ont été évacuées dans un peu plus de 1500 camps de secours mis en place dans la région. Face à cette crise humanitaire, le gouvernement indien a déployé l'armée, la marine et les gardes-côtes, soit des milliers d'hommes, près de 300 bateaux et une dizaine d'hélicoptères. De la nourriture et de l'eau potable, qui manquent cruellement dans les zones les plus touchées, a également été distribuée. Le premier ministre indien Narendra Modi a annoncé une aide de plus de 62 millions d'euros pour le Kerala ce samedi. Hormis les dégâts matériels déjà estimés à plus d'un milliard d'euros, le bilan humain pourrait s'alourdir, les secours s'effectuant dans des conditions extrêmement difficiles.
Antoine Guinard pour RFI. La Chine furieuse contre le Pentagone qui a publié jeudi dernier un rapport pour le Congrès américain sur l'armée chinoise qui serait en train d'étendre son influence dans le monde. Reportage Angélique Forger, RFI.
Ce ne sont que des suppositions. Voici ce que le ministère chinois de la Défense rétorque au Pentagone. Selon Pékin, ce rapport déformerait les intentions stratégiques de la Chine et amplifierait la soi-disant menace chinoise. Dans ce rapport annuel, le Pentagone estime que la Chine a dépensé en 2017 167 milliards d'euros pour sa défense et que l'armée populaire de libération ne cesse d'étendre ses opérations. En particulier dans le Pacifique et en mer de Chine, sur des îles disputées qu'elle occupe et où elle développe des infrastructures militaires. Mais ce qui agace le plus Pékin dans ce rapport, c'est certainement la partie sur Taïwan, île autonome que la Chine considère comme partie intégrante de son territoire. Selon le Pentagone, l'armée chinoise se prépare sur l'ancienne Formose à des opérations militaires, un blocus, voire un débarquement. Pour Pékin, Washington doit abandonner ce vieil esprit de guerre froide et assure que la Chine est sur la voie du développement pacifique et qu'elle a toujours contribué à la paix mondiale.
Angélique Forger pour RFI. La 11e conférence mondiale sur l'hindi visant à promouvoir la langue hindi à travers le monde est en cours dans la capitale mauricienne de Port-Louis jusqu'à demain, lundi 20 août. Cette année, le thème de la conférence est Hindi World and Indian Culture. Le premier ministre mauricien, Pravin Jugnauth, a déclaré que c'était un événement important.
It should therefore be a forum for reflections that will chart the way forward for an effective use of Hindi in preserving and transmitting the great Indian culture.
Voilà le Premier ministre mauricien. Un mot de sport, la victoire écrasante des All Blacks hier contre les Wallabies pour le tournoi des Four Nations, 38 à 14, et on parle du rugby. Les Springboks ont, eux, battu les Pumas d'Argentine, 34 à 21. Et un mot de tennis avec les vétérans de retour en finale, cette fois à Cincinnati. Ce dimanche, Novak Djokovic jouera contre Roger Federer. Chez les dames, Simona Halep jouera la finale contre la néerlandaise Kiki Bertens. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie, perf maximal de 24 degrés, Adélaïde 14, Melbourne 10 degrés, Hobart 9, Canberra 11, Sydney 17, Brisbane 23, Cairns 29, Darwin 33 et à Alice Springs maximal de 19 degrés. Un rappel des grands titres de ce journal. Les tensions persistent au sein de la coalition libérale concernant le Premier ministre Malcolm Turnbull et son plan énergétique. Les hommages à Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, décédé hier. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.